RFI, 6h30, à Paris, 5h30 en temps universel. Bonjour Arthur Ponchelet.
Bonjour Julien et bonjour à vous qui nous écoutez.
À la une de votre journal, il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière.
Les mots du ministre tchadien des Affaires étrangères hier soir. N'Djamena met fin aux accords de défense avec la France, annonce faite quelques heures seulement après la visite du ministre français des Affaires étrangères dans le pays. Nous serons sur place dans un instant. C'est une première pour un président français en exercice. Emmanuel Macron reconnaît dans une lettre à son homologue sénégalais qu'un massacre a eu lieu à Tiaroy. Le 1er décembre 1944, les troupes coloniales ont tué des tirailleurs qui réclamaient le paiement de leurs arriérés de soldes. Le chef de l'État français recevait aussi Bola Tinubu. Hier, le président nigérian est à Paris pour une visite de 3 jours. Quels en sont les enjeux? On fait le point dans ce journal. Et puis, Boualem Sansal, toujours détenu en Algérie. L'écrivain franco-algérien est notamment poursuivi pour complot contre la sûreté de l'État. Il a été placé sous mandat de dépôt par un juge d'instruction. L'annonce a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Le Tchad met un terme à son accord de défense avec la France. Par un communiqué publié vers 23h, le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement, Abderrahman Koulamallah, parle d'un tournant historique. Pas de réaction à ce stade côté français. Cette décision intervient quelques heures à peine après la fin de la visite au Tchad du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. On part tout de suite pour N'Djamena, où on vous retrouve. Carole Valade, bonjour.
Bonjour Arthur, bonjour à tous.
Correspondant de RFI dans la capitale tchadienne. Carole, pourquoi cette annonce intervient-elle maintenant? Est-ce que le ministre français a été mis au courant lors de son entretien avec le président Déby?
Alors effectivement, la question se pose, hein, parce que le ministre Barrot n'a pas abordé le sujet lors de la déclaration commune à l'issue de la rencontre. La France doit considérer désormais que le Tchad a grandi et mûri, a simplement glissé son homologue tchadien, Abderrahman Koulamallah, qui, joint par RFI, évoque une décision mûrement réfléchie, annoncée très symboliquement ce 28 novembre, qui marquait le 66e anniversaire de la proclamation de la République au Tchad. Le ministre laisse entendre qu'elle pourrait entraîner un départ du millier de soldats français stationnés dans le pays actuellement, suivant les modalités et dans les délais prévus par l'accord de défense.
Carole, quelles peuvent être les conséquences de cette décision sur les relations entre les deux pays ?
Alors, elle ne remet pas en question les relations historiques et les liens d'amitié entre les deux nations. Ce sont les mots du communiqué tchadien qui laissent donc la porte ouverte à un dialogue pour, je cite, « explorer de nouvelles formes de partenariat ». C'est en tout cas un tournant historique dans une longue histoire de codépendance marquée par un siècle de présence militaire au Tchad, quasi continue, pays d'ailleurs qui a connu le plus grand nombre d'opérations militaires françaises sur son territoire. C'est aussi un nouveau coup dur pour la diplomatie française qui a vu son armée chasser du Mali, du Niger et du Burkina Faso ces dernières années, mais aussi et sans doute une décision très politique de la part de Mahamat Idriss Déby, qui marque ainsi des points auprès d'une opinion publique largement défavorable à la présence française à tout juste un mois des élections législatives.
Carole Valade en direct de N'Djamena pour RFI. Les militaires français qui pourraient aussi prochainement plier bagages au Sénégal, à en croire en tout cas les propos du président Bassirou Diomaye Faye à plusieurs médias français. Nous n'avons pas de base militaire à l'étranger, il est donc normal que nous n'acceptions pas d'éléments étrangers sur notre sol, déclare le président sénégalais au journal Le Monde. Bassirou Diomaye Faye, qui s'est aussi exprimé sur la chaîne de télévision France 2, il dit avoir reçu une lettre d'Emmanuel Macron, courrier dans lequel le président français reconnaît un massacre à Tiaroy. Il y a près de 80 ans, les troupes coloniales ont ouvert le feu sur les tirailleurs qui réclamaient le paiement de leurs arriérés de soldes. Le bilan officiel est de 70 morts, bilan contesté par les historiens qui parlent plutôt de plusieurs centaines de victimes. Magali Lagrange.
On n'en est pas encore à l'exercice d'excuses, mais j'ai reçu une lettre du président Macron, explique Bassirou Diomaye Faye. Dans ce courrier, le chef de l'État français écrit que le 1er décembre 1944, la confrontation de militaires et de tirailleurs qui exigeaient que soit versée l'entièreté de leur solde légitime a déclenché un enchaînement de faits ayant abouti à un massacre. Pour le président sénégalais, c'est un pas qui doit ouvrir la porte à une collaboration pour la manifestation de toute la vérité. Bassirou Diomaye Faye évoque la chape de plomb qu'on a régulièrement cherché à mettre sur cette histoire. Dans son courrier, Emmanuel Macron mentionne aussi la quête de vérité historique. Il importe d'établir autant que possible les causes et faits ayant mené à cette tragédie, estime-t-il. Il souhaite être tenu informé de l'avancée des travaux du comité pour le rétablissement des faits mis en place au Sénégal. Le chef de l'État français appelle à poursuivre dans le temps la coopération entamée pour, je cite, écrire la réalité de l'histoire et bâtir une mémoire partagée et apaisée.
Magali Lagrange. Au Sénégal, l'homme politique et ancien président du groupe parlementaire Beno Bokyakar Moustapha Diarraté a été condamné à 2 mois de prison ferme pour discours contraire aux bonnes mœurs. Il s'en était notamment pris au Premier ministre Ousmane Sonko dans une émission télévisée et qualifié ses électeurs, je cite, d'électeurs dupés et les Sénégalais de peuple maudit après les législatives anticipées du 17 novembre. Bola Tinubu à Paris, le chef d'État nigérian est en France pour une visite d'État de 3 jours. Après une cérémonie aux Invalides, il a été reçu au palais de l'Élysée par Emmanuel Macron. Une rencontre aussi avec des grandes entreprises des deux pays, car cette visite est largement centrée sur l'économie, avec un objectif, renouveler et élargir le partenariat entre Paris et Abuja. Lisa Fabian.
Passage en revue des troupes dans la cour des Invalides pour accueillir le président Bola Ahmed Tinubu à Paris. Les honneurs d'une visite d'État qui constitue une aubaine pour le président nigérian au moment où son pays fait face à une très grave crise économique.
Peu importe combien vous investissez dans d'autres pays africains, il est essentiel de considérer le Nigeria comme un partenaire sérieux pour atteindre vos objectifs. Quoi qu'il en soit, nous voulons assurer la communauté des investisseurs que le Nigeria est ouvert aux affaires.
Pour l'instant, pas d'annonce concrète, mais des promesses d'investissement dans de nombreux domaines de la part du président Emmanuel Macron.
La France continuera de s'investir à travers aussi son agence française de développement. Plus de 330 millions d'euros dès 2025 en supplément en faveur des projets justement de sécurité alimentaire, de mobilité urbaine, d'enseignement supérieur, d'agriculture, de formation professionnelle et de changement climatique. Aux investissements du groupe AFD viendront s'ajouter de nouveaux investissements via aussi des prêts du Trésor français.
Le chef de l'État français a aussi apporté son soutien aux réformes économiques menées par Bola Tinubu depuis son élection. Celles-ci sont pourtant très critiqué au Nigeria.
Lisa Fabian. L'armée malienne affirme avoir arrêté 6 individus soupçonnés d'avoir facilité l'arrivée et l'installation des commandos terroristes qui ont mené les attaques du 17 septembre à Bamako. Ces arrestations remonteraient au 17 et 18 novembre dernier. Ces complices présumés des assaillants auraient également mené des missions de surveillance des sites à attaquer et apporté un soutien logistique aux groupes armés terroristes, selon le communiqué. Ces attaques revendiquées par le JNIM avaient fait plus de 70 morts selon un bilan non officiel, mais largement recoupé. 13 jours de détention et toujours aucune communication des autorités algériennes sur le cas de Boualem Sansal. L'instruction judiciaire se poursuit contre l'écrivain franco-algérien. Son avocat en France, maître François Zimeret, a annoncé mardi le placement sous mandat de dépôt de son client, ce que confirment des sources à Alger, correspondant sur place de Faisal Metaoui.
Boualem Sansal, arrêté le 16 novembre 2024, est à la prison de Coléa à l'ouest d'Alger depuis au moins 6 jours. Selon des sources informées, l'écrivain français d'origine algérienne a été mis sous mandat de dépôt sur décision du juge d'instruction du tribunal de Dalbaïda à l'est de la capitale après une longue audition. Les mêmes sources indiquent que Sansal est poursuivi sur la base de l'article 87 bis du code pénal pour, entre autres, atteinte à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale du pays et complot contre la sûreté de l'État. Des accusations qualifiées de lourdes par la presse algérienne qui a indiqué que la section chargée des crimes terroristes et du crime organisé du tribunal d'Alger pourrait suivre le dossier de Boualem Sansal. Le bâtonnat d'Alger aurait chargé des avocats pour accompagner l'écrivain lors d'une instruction qui risque d'être longue. La défense aurait introduit un appel devant la chambre d'accusation contre la décision de placer Sansal en détention provisoire. Habituellement, le parquet d'Alger communique sur ce genre d'affaires considérées comme sensibles. Le silence actuel serait motivé par le secret de l'instruction. Faisal Metaoui, Alger, RFI.
18 jeunes Congolais arrêtés en Ouganda et extradés vers la RDC. Présentés mardi devant les autorités militaires à Bunia, ils sont accusés d'avoir été recrutés dans un camp de déplacés du territoire de Djougou par un individu présumé affilié au groupe armé M23. Selon les autorités congolaises, ces jeunes auraient été mobilisés pour renforcer les rangs du M23. Le gouverneur militaire de l'Ituri se félicite d'un coup de filet et exhorte la population à collaborer avec les forces de sécurité pour contrer les groupes armés. Le leader séparatiste anglophone camerounais Lucas Cho Ayaba restera en prison en Norvège jusqu'au 14 janvier prochain. Décision du tribunal de district d'Oslo la semaine dernière. Il avait été arrêté fin septembre. La cellule d'enquête criminelle de la police norvégienne le soupçonne d'incitation à commettre des crimes contre l'humanité au Cameroun. Amélie Tullet.
La justice norvégienne estime avoir besoin de plus de temps pour étudier tous les éléments du dossier. Elle prolonge donc pour la seconde fois la détention provisoire du séparatiste en exil. Lucas Cho Ayaba restera en prison au moins jusqu'au 14 janvier, sans possibilité de communication et sans recevoir de visite, à l'exception de sa famille immédiate. Car pour le tribunal de district d'Oslo, il y a un risque réel que le mis en cause cherche à falsifier les preuves ou à influencer les témoins que les enquêteurs veulent interroger. Lucas Cho Ayaba a dirigé à distance le groupe ADF, Ambazonia Defense Forces, branche armée du mouvement indépendantiste Ambazonia Governing Council. Le mouvement dénonce la prolongation de la détention de son leader en Norvège et la qualifie de manœuvre pour aider, je cite, le Cameroun à perturber la quête de liberté de l'Ambazonie et à réduire la résistance sur le terrain. Le mouvement séparatiste annonce une procédure d'appel engagée par l'équipe juridique de Lucas Cho Ayaba. C'est la première fois que la Norvège arrête quelqu'un sur des soupçons d'incitation à commettre des crimes contre l'humanité. Un chef d'accusation passible de 30 ans de prison.
Amélie Tullet, elle doit être extradée aujourd'hui vers la Belgique. La chanteuse malienne Rokia Traoré est sous le coup d'un mandat d'arrêt européen émis par Bruxelles. Elle avait été arrêtée le 20 juin dernier dans le cadre du litige qui l'oppose à son ex-mari sur la garde de leur fille. Elle était depuis incarcérée dans une prison près de Rome. On en parle avec notre correspondante dans la capitale italienne dans le prochain journal. Et puis, deux jours supplémentaires pour voter en Namibie. Les élections présidentielles et législatives auraient dû se terminer mercredi soir. Mais les Namibiens ont finalement jusqu'à demain pour glisser leur bulletin de vote dans les urnes. Décision de la commission électorale validée par le président sortant. C'est le résultat de la forte participation, mais aussi de nombreux dysfonctionnements dans les bureaux. Manque de bulletins, parfois, matériel informatique qui ne fonctionne pas. Certains électeurs ont été privés de leur droit de vote, dit la commission électorale. Il est 5h bientôt passé de 43 minutes, une heure de plus, en temps universel, une heure de plus, ici à Paris. Et tout de suite, c'est la suite d'RFI Matin et c'est avec vous, Julien Coquel-Rohem.
Merci Arthur Poncelet, à tout à l'heure. RFI Matin, la suite, un nouveau journal dans 17 minutes et le Liban à la une. Alors qu'Israël et le Hezbollah se sont mutuellement accusés d'entorse au cessez-le-feu, on appelle Paul Khalife à Beyrouth à 6h, temps universel.